Merci Frédéric Barrère, on vous retrouve tout à l'heure à 19h. Et bonjour à tous. Il a été interpellé à l'aéroport Charles de Gaulle en décembre dernier. Le français Jean-Luc Brunel est soupçonné d'avoir fourni des jeunes filles au milliardaire Jeffrey Epstein qui s'est suicidé en prison en août 2019. Bonjour Laetitia Chérel.
Bonjour.
Vous aviez enquêté sur lui peu après que l'affaire éclate. Vous allez donc nous raconter à nouveau aujourd'hui ce que vous aviez découvert à l'époque. Et puis nous recevrons Pierre Conessa. Bonjour également.
Bonjour.
Alors vous avez publié cette semaine Le lobby saoudien en France. Un livre qui explique comment, pour essayer de lisser une image abîmée par la guerre au Yémen et l'affaire Khashoggi, l'Arabie Saoudite utilise des agences de communication et essaierait même de rémunérer des journalistes.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Jean-Luc Brunel, le français superstar du mannequinat. Filmé ici à New York en 1995, il est alors à la tête d'une des plus grandes agences au monde et est déjà accusé de viol aux États-Unis par trois mannequins. Les victimes seraient en fait des dizaines. Parmi elles, Ticia Huisman. En 91, cette néerlandaise a 18 ans. Jeune mannequin, elle affirme avoir été droguée et violée par l'homme d'affaires. Aujourd'hui, elle est soulagée par son arrestation.
Voilà un extrait d'un reportage diffusé sur TF1 le 19 décembre dernier. Jean-Luc Brunel, l'ancien patron de l'agence de mannequins Karine Model, vient d'être arrêté alors qu'il devait décoller pour Dakar. Il sera ensuite mis en examen pour viol sur mineur de plus de 15 ans et harcèlement sexuel avant d'être placé en détention provisoire. Il est d'ailleurs toujours en prison aujourd'hui, où il conteste les accusations qui sont portées contre lui. Maintenant, de quoi parle-t-on ? Qui est Jean-Luc Brunel ? Et quel est son parcours ? Eh bien, c'est donc ce que vous avez cherché à savoir, Laetitia Chérel.
Alors, Jean-Luc Brunel, c'est un homme de 74 ans qui a longtemps été un personnage incontournable du milieu de la mode. Toujours bronzé, tiré à quatre épingles, au volant de belles voitures, il affirme avoir été élevé dans la haute bourgeoisie parisienne. Et après ses études, il fait un peu tous les métiers, relations publiques, tourisme, puis il part tenir un bar à Ibiza, une destination de rêve pour cet amateur de fêtes et de jolies filles, comme il le reconnaît dans une interview qu'il avait donnée à France Soir en 1995 et que nous avons fait lire.
Je faisais des affaires à Ibiza et à vrai dire, je ne savais pas faire grand-chose. J'ai été marié, puis divorcé à un mannequin et je sortais beaucoup. À 25 ans, je ne pensais qu'à une chose, courir après les filles. Et puis on évolue. Aujourd'hui, j'ai deux nièces de 15 et 16 ans et ça me fait réfléchir. J'ai progressé dans le sens du respect de la personne humaine.
Ouais, ça c'est ce qu'il dit donc en 1995 et ensuite.
Ensuite, il rachète l'agence Karine Model et il en fait l'une des plus grandes agences de la place de Paris. Il se vante d'avoir notamment repéré Sharon Stone ou encore Estelle Lefébure et il apparaît longuement dans un documentaire de l'émission 52 minutes sur TF1 en 1995 sur le métier d'agent de mannequin. Écoutez cet extrait, Jean-Luc Brunel est alors en plein casting.
Das Madalena. I found her in Ostrava.
Ça fait 8 jours qu'elle est là. Il a fallu lui faire arranger ses cheveux. Elle avait un petit problème de peau. Il a fallu que ça s'arrange. C'est ce qu'on appelle une fille, disons, à l'état brut, si on peut le dire. C'est comme les pierres précieuses. Ça se polie. Et puis après, ça se vend le plus cher possible.
Oui, je vous laisse juge de la comparaison. En attendant, il est donc reconnu, hein, Laetitia, dans le milieu du mannequinat, mais il est aussi connu pour une certaine addiction.
Oui, une addiction à la cocaïne, précisément, ce qui n'est pas exceptionnel dans ce milieu. Il reconnaît lui-même consommer cette drogue et c'est confirmé par l'ancienne comptable d'une de ses agences de mannequins. Elle a témoigné sous serment aux États-Unis et nous avons fait lire ses propos.
Jean-Luc avait un problème, c'était un drogué, un accro à la cocaïne. Il a toujours été comme ça depuis que je le connais. Je ne l'ai jamais vu prendre de la cocaïne au bureau, mais parfois, il arrivait à l'agence, il saignait du nez et il avait des trucs blancs autour de son nez. Et il fallait qu'il aille se nettoyer. Il avait une boîte où il mettait la cocaïne et tout le monde savait. Il disait toujours à un type de l'agence « Va m'en chercher de la bonne ». Et le type y allait.
Ouais, le type y allait. Et parallèlement, Jean-Luc Brunel faisait souvent la fête.
Oui, fête qu'il organise dans son immense appartement du 45 avenue Hoche à Paris. Nous avons rencontré un ancien assistant de mode qui avait 20 ans dans les années 80. Il a tenu à rester anonyme et nous avons donc fait lire ses propos. Il ne connaissait pas personnellement Jean-Luc Brunel, mais il a participé à beaucoup de ses soirées.
Il recevait très bien. Il y avait du monde pour servir. On était facilement 100 à 150.
Il y avait Estelle, Lefébure et d'autres mannequins qui sont devenus connus après. Des jeunes mannequins, bien sûr, mais impossible de dire si elles étaient mineures. Il y avait aussi des gens un peu plus âgés, des mecs de 40 piges. C'était pas des hommes d'affaires, c'était des gens de la mode. Jean-Luc Brunel était aussi très souvent au bain-douche où il venait avec des mannequins. Mais je n'ai jamais rien vu de scabreux, je n'ai pas cette image-là de lui.
Et pourtant, cette image-là, Laetitia, elle va apparaître en 1988. Un scandale éclate après la diffusion d'un documentaire sur CBS.
Oui, le programme 60 Minutes s'intéresse alors aux rêves envolés de jeunes mannequins américaines qui viennent à Paris et qui déchantent. Une d'entre elles accuse Jean-Luc Brunel de l'avoir droguée, puis violée. Dans cet extrait, elle répond aux questions de la journaliste vedette.
Il vous a donné à boire ?
Oui.
Vous avez bu et qu'est-ce qui s'est passé ?
J'ai un trou, je ne me souviens plus de rien après ça. La seule chose dont je me souviens, c'est que je me suis réveillée dans le lit de cet homme. C'était Jean-Luc, de l'agence de mannequin Karine.
Vous avez été violée ?
Oui, je le sais.
Vous êtes sûre ?
Oui, j'en suis certaine, je le sais.
Vous pensez que tout le monde sait que Jean-Luc Brunel se comporte comme ça ?
Oh oui, beaucoup de gens savent, beaucoup.
Beaucoup de gens, mais c'est confirmé ça ?
Alors à ce stade, il faut encore rester très prudent, mais on a retrouvé le journaliste américain qui a fait cette enquête. Il s'appelle Craig Pies, il a travaillé 7 mois sur le sujet, et lui est formel, la profession, dit-il, était au courant.
La réputation de Jean-Luc était très connue dans l'industrie de la mode, parmi les directeurs d'agences et même aux États-Unis, parce que de nombreuses mannequins racontaient à leurs agents qu'elles avaient des difficultés, que Jean-Luc leur avait proposé de les offrir à ses amis pour aller à des dîners et pour coucher avec eux. Et les filles qui résistaient n'avaient plus de travail. Leur rêve de devenir mannequin s'arrêtait parce qu'elles n'avaient pas couché avec Jean-Luc ou avec ses amis. C'est ce que les filles disaient.
Ouais, c'est ce que disent les filles. Et Jean-Luc Brunel, lui, qu'est-ce qu'il répond à ça, Laetitia ?
Eh bien, il dément en bloc toutes les accusations qui sont portées contre lui et il menace même de poursuivre CBS, mais il ne met pas sa menace à exécution.
Bon, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, quelques mois plus tard, la prestigieuse agence Ford met fin à sa collaboration avec lui. Il reste tout de même propriétaire de l'agence Karine, mais il ne la dirige plus. C'est son associé qui prend le relais.
Mais ses ennuis ne s'arrêtent pas pour autant.
Non, en 1995, dans un livre très documenté sur les dessous de la mode, d'autres témoignages accablent Jean-Luc Brunel. L'auteur du livre, le journaliste américain Michael Gross, a interviewé Jérôme Bonouvrier, qui était alors le patron très respecté d'une agence de mannequins française, et voilà ce qu'il lui a dit.
Il m'a dit qu'il considérait Brunel comme un danger public parce qu'il vivait son rêve de playboy en détenant une agence de mannequins. Qu'il savait exactement ce que cherchaient les filles fragiles et qu'il était toujours à la limite. Vous savez, Bonouvrier n'a pas été le seul à me dire ça. John Casablanca, qui a été le fondateur de l'agence Elite, disait la même chose, que Brunel et ses amis invitaient les filles à des fêtes, mettaient de la drogue dans leur verre, ils les traitaient même de salopards.
Ouais, alors à ce stade, on va quand même rappeler hein, que Jean-Luc Brunel n'a jamais été condamné. Mais cependant, une ex-mannequin nous a aussi raconté, elle, sa propre expérience. Et ce qu'elle nous a dit semble, Laetitia, accréditer ses propos.
Oui, c'est un témoignage exclusif. Elle s'appelle Courtney Sorensen, elle est américaine et elle a 19 ans quand elle arrive à l'agence Karine à Paris en 1988. Elle dit que lors d'une fête chez lui, Jean-Luc Brunel l'amène dans un couloir à part. Et la suite, elle la raconte à Valérie Cantier.
On a fini par se retrouver seul. Il s'est rapproché de plus en plus de moi. Il a mis ses mains sur mes reins, sur mes hanches. Je me suis écartée. Il m'a alors dit que s'il pouvait me montrer comment faire plaisir à ses amis, il pourrait me trouver les meilleurs contrats possibles. Puis il m'a poussée sur le lit, j'ai résisté, il a persisté,
Il a essayé d'enlever ma chemise, m'a tiré fort vers lui sur le lit. J'ai fini par m'enfuir de la chambre.
Et je précise qu'à la suite de ça, elle explique qu'elle n'a plus trouvé de travail chez Karine Model.
Oui, alors ça c'est donc en 88. Et ensuite, Jean-Luc Brunel, lui, il va s'expatrier.
Oui, il part vivre aux États-Unis vers la fin des années 90. Et c'est là, semble-t-il, qu'il fait la connaissance de Jeffrey Epstein.
Et il l'accompagne souvent ?
Oui, il apparaît une quarantaine de fois sur les registres de vol de l'avion de l'homme d'affaires entre 2000 et 2005.
Une quarantaine de fois, ce qui n'est pas rien. Donc les deux hommes sont apparemment très proches.
Oui, et apparemment, Jeffrey Epstein aurait même donné un coup de pouce financier à son ami, puisqu'il aurait investi dans MC Square, une agence que Jean-Luc Brunel a créée en 2005 à Miami. C'est en tout cas ce qu'affirme l'ancienne comptable de cette agence. Dans une déposition sous serment en 2010, elle explique que l'homme d'affaires a dégagé une très grosse somme d'argent. Nous avons fait lire un extrait de son témoignage.
Jean-Luc a toujours dit que Jeffrey était son ami, qu'il était millionnaire et que Jeffrey lui donnait de l'argent, des prêts, des trucs comme ça. Jeffrey Epstein a donné $1 million à l'agence MC Square. Je le sais parce qu'au début, Jeffrey ne voulait pas signer de papier et il a fini par les signer. Et c'est moi qui les ai apportés à la banque.
Et Jeffrey Epstein, il a fait d'autres cadeaux à Jean-Luc Brunel ?
Eh bien, toujours selon la comptable, les jeunes filles étaient logées soit dans des appartements fournis gratuitement par Jeffrey Epstein, soit dans d'autres appartements loués par l'agence de Brunel et utilisés d'une manière plutôt particulière.
Nous louions deux appartements pour les filles et c'est Jean-Luc qui décidait dans lesquels elles allaient. Si c'était des gentilles filles qui pouvaient rapporter de l'argent, elles habitaient dans les appartements luxueux d'Epstein. Si c'était des filles banales, elles habitaient dans des endroits pourris.
Ouais, reste à savoir ce qu'on entend par gentille et banale. Bon, maintenant Laetitia, qu'est-ce que Jeffrey Epstein aurait reçu en échange de ses appartements de la part de Jean-Luc Brunel ?
Eh bien, des jeunes filles auraient été amenées par Jean-Luc Brunel à l'homme d'affaires. C'est en tout cas ce qu'ont affirmé deux femmes dans la première procédure visant Epstein en 2007, l'accusant d'être, je cite, son rabatteur. Une accusation confirmée par son ex-comptable.
Ce que j'entendais au bureau, c'est Jean-Luc qui disait qu'il emmenait des filles de 15 ou 16 ans chez Jeffrey. Il emmenait les filles lui-même en voiture, je réservais une limousine et il les amenait directement chez Monsieur Epstein, parce qu'il y avait une fête et qu'il devait y avoir des filles.
Jean-Luc Brunel aurait donc lui-même conduit des filles mineures chez Epstein ?
Oui, et Virginia Roberts, une des principales plaignantes contre Jeffrey Epstein aux États-Unis, porte une accusation du même type. Je vous préviens, ces propos que nous avons fait lire sont vraiment glaçants.
Epstein, Brunel et Maxwell adoraient les orgies avec les très jeunes filles, c'est-à-dire coucher avec de nombreuses adolescentes en même temps. Parfois, il y avait jusqu'à 10 jeunes filles avec eux. J'ai assisté à au moins une douzaine de ces orgies. Le pire que j'ai entendu de sa bouche, c'était à propos de 3 jolies filles de 12 ans qu'il avait fait venir par avion pour son anniversaire. C'était un cadeau surprise d'un de ses amis, Jean-Luc Brunel, et elles venaient de France. Je les ai vues, je les ai rencontrées. Jeffrey s'est vanté après qu'elles avaient 12 ans et qu'elles étaient venues de France parce que leurs parents avaient besoin d'argent.
Effectivement, c'est assez épouvantable. Mais si tout ça est vrai, Laetitia, ce qui n'a pas été établi d'ailleurs pour l'instant, ça ressemble quand même à une forme de trafic, non ?
En tout cas, ça peut ressembler à un système très bien rodé, y compris au niveau administratif, car Epstein tenait, semble-t-il, à donner à tout ça un vernis présentable. Ainsi, toujours selon la comptable, il aurait demandé aux agences de Jean-Luc Brunel, Karine et MC Square, de se charger de trouver des visas en règle pour certaines des filles qu'il faisait venir.
Beaucoup de filles venaient d'abord sans visa de travail, comme touristes. Elles travaillaient rarement et on leur prenait 30% de leurs revenus, alors qu'elles n'avaient même pas le droit de travailler. Et puis, je pense que M. Epstein a commencé à mettre la pression sur Jean-Luc, car il ne voulait pas avoir de problème. Il voulait que toutes les filles aient un visa. Donc, on payait un avocat pour s'occuper des visas à Miami. M. Epstein a payé directement les visas, mais les visas passaient par Karine et MC Square.
Ah oui, donc officiellement on fait venir des mannequins, mais c'est Epstein qui aurait payé pour les visas. Bon, cela dit, tout ça, tout ce qu'on vient d'entendre, Laetitia, c'est très grave. Mais en dehors de ces témoignages, de ces multiples d'ailleurs, on l'a vu témoignages, Est-ce qu'il existe des preuves ?
Alors, pour ce qui concerne Jeffrey Epstein, oui. En revanche, pour Jean-Luc Brunel, non. Maintenant, il existe tout de même des messages troublants qu'il aurait dictés à un employé de Jeffrey Epstein et que cet employé a retranscrit sur un post-it retrouvé dans la résidence de l'homme d'affaires à Miami. Voilà un de ces messages. Le texte est codé, mais on comprend facilement de quoi il s'agit.
Il a une prof pour vous apprendre le russe. Elle a 2x8 ans, elle n'est pas blonde. Les cours sont gratuits et elle peut commencer aujourd'hui si vous l'appelez.
Oui, il a une prof, donc une fille russe, hein, c'est ce qu'on comprend. Et elle aurait 2x8, donc 16 ans. Message apparemment codé de Jean-Luc Brunel et laissé à Jeffrey Epstein. Alors j'ajoute qu'en France aujourd'hui, l'enquête se poursuit, tandis qu'aux États-Unis, l'arrestation de Ghislaine Maxwell, l'ex-compagne de Jeffrey Epstein, pourrait apporter de nouveaux éléments. On devrait être fixé d'ailleurs assez vite, puisque son procès, le procès de Ghislaine Maxwell, est programmé pour le mois de juillet prochain.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors maintenant qu'on a vu quel a été le parcours de Jean-Luc Brunel, bien on va s'arrêter un moment sur ce qu'a été la vie de Jeffrey Epstein lorsqu'il venait à Paris. Et je me tourne maintenant vers vous, Théo Hetsch, le milliardaire, à une certaine époque, venait effectivement souvent dans la capitale, mais ça a commencé quand précisément ?
Difficile à dire, en tout cas il vient pour la première fois avec son Boeing 727 le 3 mai 96, mais c'est à partir de 2001 qu'il va venir plus régulièrement. Au début, il loge à l'hôtel Bristol. À cette période, il entretient une relation avec une Parisienne de 26 ans et bientôt, il embauche un homme à tout faire pour s'occuper de lui.
Et lorsqu'il vient à Paris, Jeffrey Epstein, il fait quoi ?
Eh bien, il va au musée, il rencontre des amis et il va à la piscine presque tous les après-midi au Ritz, place Vendôme. Son majordome a accepté de nous parler en exclusivité. Lui le décrit comme quelqu'un d'assez solitaire. Écoutez précisément ce qu'il nous a dit sur ses activités. Nous avons fait lire ses propos par un journaliste.
Jeffrey Epstein n'était pas très mondain, il passait pas mal de temps sur son ordinateur. Mais en même temps, il bougeait souvent, il avait du mal à rester en place. Ça lui arrivait d'aller au cinéma avec plusieurs filles, mais de partir au bout de 30 minutes parce qu'il s'ennuyait. Il allait souvent se balader sur les Champs-Élysées.
Ouais, sur les Champs-Élysées, mais aussi dans le deuxième arrondissement.
Oui, Jeffrey Epstein arpente aussi les boutiques d'art. Vous savez, on a beaucoup vu tourner sur Internet une photo d'un tigre empaillé présent dans sa maison de New York. Exact, et à cet objet, il vient d'une boutique parisienne. Epstein s'intéressait beaucoup à la décoration. C'est en tout cas ce que nous a raconté Linda Pinto, prestigieuse décoratrice des stars. Elle a aménagé plusieurs résidences d'Epstein.
De temps en temps, il appelait et il demandait si on était au bureau. Il passait nous voir pour parler, parce que la décoration l'amusait, et pour parler de tout et de rien. Et c'était un homme sympathique et intéressant et intelligent, donc on avait plaisir à l'écouter. Il ne passait pas des heures, hein, il levait un peu en flèche, et puis 20 minutes après, il disait « bon, ben alors je m'en vais », et puis il repartait. C'était purement professionnel.
Et purement professionnel. En revanche, lorsqu'il est chez lui, là, il est parfois moins question de travail.
Oui, son majordome nous a aussi raconté que son patron passait beaucoup de temps à se faire masser par des femmes qu'il payait.
Il aimait la compagnie de femmes jeunes, ça c'est sûr. Elles restaient quelques jours à Paris, puis elles repartaient. Alors j'ai pas vérifié, mais à mon sens, elles étaient toutes majeures. Comme monsieur aimait beaucoup les massages, elles étaient embauchées pour ça. On peut parler de prostitution, même si les massages n'étaient pas tous accompagnés de relations sexuelles. Lorsque j'ai commencé à son service en 2001, il se faisait masser au moins 2 fois par jour, parfois même 3 ou 4. Mais c'était moins fréquent ces dernières années. Les femmes, elles lui coûtaient beaucoup d'argent.
Et parmi ces femmes qui arrivent à Paris, il y a Virginia Roberts, celle qui l'accuse aujourd'hui d'avoir fait d'elle l'une de ses esclaves sexuelles. Elle a alors 17 ans, nous avons eu son avocate. Elle affirme qu'Epstein a également abusé d'elle à Paris, sur le sol français.
Ah, et ces femmes qui l'accompagnent dans la capitale, il les emmène parfois aussi en soirée.
Oui, en tout cas, certaines d'entre elles, elles l'accompagnent à des soirées parisiennes. Par exemple, en 2012, il est invité à une soirée chez la princesse Bourbon des Deux Siciles à Paris. une fête en l'honneur de Woody Allen.
Maintenant, à minima, ça montre quand même que Jeffrey Epstein avait une vie mondaine à Paris.
Oui, et ce que le majordome nous a également confié, c'est qu'Epstein aimait tellement Paris qu'il aurait même envisagé d'y passer une partie de ses vieux jours.
Ouais, il l'aimait tellement d'ailleurs qu'il y a acheté un appartement.
Deux appartements en fait situés au 22 avenue Foch, à deux pas de l'Arc de Triomphe, l'un au deuxième et l'autre au cinquième étage. Il a d'abord loué ses appartements, puis il les a achetés en 2002 pour un peu plus de 3,5 millions d'euros. Il a ensuite racheté d'autres dépendances et au final, après quelques travaux, son pied-à-terre mesurait 800 mètres carrés.
800 mètres carrés, il a même essayé de l'agrandir. Il vaut combien aujourd'hui cet appartement ?
Eh bien, depuis 2002, il a pris de la valeur. Il est estimé dans le testament de l'homme d'affaires à 7,8 millions d'euros.
Ah, ce qui fait une sacrée plus-value. Et il ressemble à quoi cet appartement ?
Eh bien, écoutez, cet artisan, il y a travaillé entre 2002 et 2005. Lui non plus n'a pas souhaité être enregistré. Alors nous avons fait lire son témoignage.
Je me rappelle bien de l'appartement, très grand, de nombreuses chambres, une salle de massage et une salle de sport quasi professionnelle. Mais surtout, j'ai été marqué par les nombreuses photos de jeunes filles dans l'appartement. Elles étaient disposées dans des cadres un peu comme on présenterait des photos de famille. Les filles semblaient très jeunes, mineures, difficile à dire, pas beaucoup plus que 18 ans en tout cas. En voyant les photos, on ne pensait pas à la pédophilie, mais c'était limite, borderline. Je me souviens aussi d'autres photos d'Epstein avec des personnalités comme Bill Clinton ou encore avec le pape.
Le pape Jean-Paul II, précisément. Un autre artisan, lui, se souvient d'un long couloir avec de nombreuses photos de jeunes femmes, ce que nous a confirmé l'épouse du majordome, qui nous a notamment parlé, elle, d'une magnifique photo de femme nue et cambrée dans la salle de massage.
Donc ça, c'est pour l'appartement. Et sinon, dans cet immeuble, Théo, qui vivait là, à part Jeffrey Epstein ?
Eh bien, que des personnes fortunées. Au rez-de-chaussée et au premier étage, il y a notamment la société d'un membre de la famille royale saoudienne. C'est la troisième personne la plus riche d'Arabie Saoudite.
Oui, il y a donc du beau monde. Et j'imagine que pour gérer un tel appartement, il faut du personnel.
Oui, il y avait une femme de ménage, évidemment. Mais le personnage central, c'est le majordome dont je vous parlais il y a un instant. C'est l'homme à tout faire. Il entretenait l'appartement, il conduisait le financier, mais aussi ses amis. Par exemple, le prince Andrew, cité dans la procédure par Virginia Roberts. Mmh. Eh bien, le majordome nous a dit l'avoir rencontré à plusieurs reprises.
Monsieur Epstein, d'après ce que je sais, avait une relation d'affaires avec le prince Andrew. Je l'ai vu plusieurs fois dans l'appartement parisien, avenue Foch. Il y a même séjourné plusieurs jours sans que Monsieur Epstein soit là. Je le conduisais en voiture, je l'emmenais à des soirées, je m'occupais de lui. Je lui faisais à manger aussi.
Oui, on va préciser que le prince Andrew, lui, dément les allégations portées contre lui. Mais sinon, Jeffrey Epstein, il recevait d'autres invités.
Oui, il y a aussi l'ex-conseiller de Donald Trump, Steve Bannon. Le chantre de l'ultra-droite américaine aurait lui aussi séjourné à Paris, chez Epstein. Entre parenthèses, c'est d'ailleurs durant ce séjour qu'il rencontre Marine Le Pen. C'est en tout cas ce que nous a affirmé la femme du majordome.
Bannon, ah oui, il est venu chez Epstein, mais pas qu'une seule fois. À chaque fois qu'il venait, c'était pour des meetings de Marine Le Pen. Je ne connais pas la vie de ce monsieur, mais ils doivent être du même parti ou avoir les mêmes idées. Moi, je sais que je l'ai vu là-bas et que mon mari m'a dit qu'il l'avait conduit. Deux jours après, je le vois aux informations et je demande à mon mari « Ah, mais c'est lui le type qui était là-bas que tu as conduit ?» Il m'a répondu « Oui, c'est un politicien ».
Alors j'ai contacté la porte-parole de Steve Bannon, mais elle dément et explique que son patron séjourne systématiquement à l'hôtel Bristol lors de ses déplacements à Paris.
Ouais, systématiquement ou pas d'ailleurs, en tout cas on a deux versions différentes. Donc, et à part le prince Andrew et Steve Bannon ?
Eh bien toujours selon le majordome, il y aurait aussi eu le couple Bill et Melinda Gates. L'homme à tout faire dit s'être également occupé d'eux à Paris, leur avoir fait à manger un soufflé aux œufs pochés précisément.
Ouais, ce sera ça pour l'anecdote, mais sinon, soyez en sérieux. Est-ce qu'il y avait un lien ou pas entre ces personnalités qui viennent le voir et les filles qu'il faisait venir ?
Impossible à dire. Selon le majordome, si quelques-unes sortaient avec lui, la plupart des jeunes femmes étaient souvent tenues à l'écart lors des réceptions mondaines ou professionnelles. Elles mangeaient même parfois dans la cuisine, nous dit-il. Bref, si l'on en croit toujours son homme de confiance, il cloisonnait ses activités.
Il était assez secret. Il ne voulait pas que d'autres gens, même ses amis, sachent depuis combien de temps les filles étaient là. Tiens, par exemple, un jour, je vais chercher un de ses amis à l'aéroport du Bourget. Dans la voiture, l'ami m'interroge. Jeffrey est à Paris depuis combien de temps ? Je réponds, désolé monsieur, je ne peux pas vous le dire. Arrivé à l'appartement, Jeffrey retrouve son ami qui lui raconte l'anecdote. Eh bien, monsieur Epstein m'a félicité ensuite d'avoir gardé le silence.
Ouais, donc le majordome est un homme très discret.
Et surtout très dévoué, à tel point que Jeffrey Epstein lui a demandé de former l'autre majordome de sa résidence de Palm Beach. D'où cette question, est-ce qu'il en sait plus et il se tait? Nous avons découvert que depuis l'ouverture de l'enquête en France, il est non seulement retourné au 22 avenue Foch, mais il s'y est ensuite installé quasiment en permanence. On peut donc se demander ce qu'il y a fait. Est-ce qu'il était là pour l'entretenir tout simplement ou pour faire disparaître des indices? Car ce n'est que plus tard que l'appartement a finalement été perquisitionné. Mais là encore, impossible de répondre. Ni lui ni son avocate n'ont répondu à nos sollicitations.
Oui, on n'ira donc pas plus loin pour aujourd'hui. Merci en tout cas Théo Hetch pour toutes ces explications. Merci aussi Laetitia Chirel. Alors je rappelle que l'affaire n'est pas terminée puisqu'il y aura le procès Maxwell a priori donc en juillet prochain et puis peut-être plus tard celui de Jean-Luc Brunel, même si rien à ce sujet n'est décidé pour l'instant. Et puis je précise que cette enquête, vous pouvez la retrouver sur franceinter.fr. Mais surtout, restez avec nous. Dans quelques instants, on va voir comment l'Arabie Saoudite essaie de redresser une image qui s'est considérablement dégradée. C'est beaucoup plus apaisé que pendant la période Oasis, mais c'est de la bonne Britpop comme on aime. C'était We're On Our Way Now, le tout nouveau titre de Noël Gallagher avec les High Flying Birds.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et nous recevons maintenant Pierre Conessa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense et avec plusieurs chercheurs et journalistes. Vous publiez Le lobby saoudien en France, un livre qui a comme sous-titre « Comment vendre un pays invendable ». Alors invendable à cause de l'affaire Khashoggi, à cause de la guerre au Yémen, mais pas seulement. Vous évoquez aussi la condition des femmes, la façon dont sont traités les opposants. En quoi ce pays est invendable ?
Ben, il est invendable parce qu'il coche toutes les cases des violations des droits de l'homme. Tout. L'intolérance, les condamnations à mort. Vous savez que si vous rapportez l'Arabie Saoudite, le nombre de décapitations en Arabie Saoudite par rapport à sa population, l'Arabie Saoudite décapite 15 fois plus que la Chine. Et donc, on devrait arriver en tête. Mais on voit bien que dans le classement général, on préfère effectivement cibler la Chine. Bon, vous avez le cas de Raif Badawi, qui est absolument prodigieux. C'est un jeune homme qui, sur son blog, avait demandé la liberté de conscience. Il a été condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet. 1000. Et on le sort tous les jours de sa prison pour lui affliger des coups de fouet. Bon. C'est quelque chose qui est suffisamment odieux pour qu'on puisse en parler à l'occasion d'un sommet. Non. Raif Badawi meurt tranquillement dans sa prison. Et sa femme s'est réfugiée au Canada, mais c'était le seul endroit où elle pouvait être tranquille. Mmh. Et puis j'arrête là, parce que si vous voulez, la liste, si vous voulez, des atteintes aux droits de l'homme devrait la classer l'Arabie Saoudite juste avec la Corée du Nord. Or, ça n'est pas le cas.
Et donc, vous expliquez comment est-ce que, malgré tout, le pays, en dépit de cette image, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, essaie justement de la lisser. Alors, d'abord en interne, c'est-à-dire qu'en interne, il y a un contrôle qui s'effectue. Vous expliquez, par exemple, que depuis 2017, le nombre de blogueurs et de journalistes emprisonnés a triplé.
Oui. Parce que finalement, le régime n'a pas vu arriver, si vous voulez, l'Internet au sens des réseaux sociaux. Et donc, ça restait le seul espace de liberté dont il n'avait pas gardé le contrôle. Je vous ai cité l'exemple de Raif Badawi. Et donc, il a fallu reprendre, si vous voulez, tout cela en main. Et encore, tout cela en main, ça veut dire, en fait, appliquer les principes religieux. Parce que ce sont les religieux wahhabites, autrement appelés salafistes, si vous voulez, qui se chargent de réprimer tout individu franchissant la ligne jaune.
Vous évoquiez les réseaux sociaux, alors vous dites qu'il y a d'un côté des menaces donc qui sont faites dès que vous publiez en gros quelque chose sur un réseau social qui est désapprouvé par le pouvoir, on va menacer les auteurs de ces messages, mais vous dites aussi qu'on leur offre jusqu'à 3 000 $ par mois.
Non, parce que je me suis beaucoup servi d'un site qui est de Wikileaks, qui s'appelle les Saudi Database. C'est un site sur lequel, par je ne sais quel miracle, Wikileaks a eu accès à plus de 140 000 télégrammes diplomatiques saoudiens. Je crois que c'est un blogueur yéménite qui a réussi à casser le chiffre, si vous voulez. Et donc, ils publient et ils traduisent régulièrement. Et évidemment, ce qui m'intéressait, c'était les journalistes, parce que c'est quand même ça qui va accéder au public, moins pour les blogueurs, mais surtout pour les journalistes. Et donc, j'ai trouvé des cas de journalistes, enfin, j'ai trouvé des cas allemands, où effectivement, la facture était 3 000 $ pour quelqu'un qui voulait bien écrire un article positif, etc. Donc, je n'ai pas cherché pour la France, mais je...
Ça, c'est autre chose. Ça, c'est rémunérer quelqu'un pour un article positif.
Oui, mais vous étiez dans ce cas-là.
C'est pas donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il arrête d'écrire sur un blog.
Ah, ben ça, de toute façon, avec le blog, vous changez d'identité, vous pouvez écrire la même chose. Donc, l'idée de la rémunération est un élément important. Mais je crois qu'il faut y revenir parce que...
Alors, oui, justement, ouais. J'allais vous interrompre parce que vous l'expliquez dans votre livre. Vous dites que, en gros, les ambassades saoudiennes disposent d'une enveloppe qui va de 8 à 10 000 euros par mois pour rémunérer des journalistes ou des universitaires d'ailleurs, des chercheurs, pour produire des articles positifs sur l'Arabie saoudite. Et là, quand on vous lit, on se dit, mais qui dans la presse française, par exemple, produit ce type d'article?
Ben, je cite un article de Alexandre Adler, qui, en pleine affaire Khashoggi, dit « Khashoggi n'a pas été tué par les Saoudiens, mais par les Turcs ». Bon, ma langue de chante, Mohamed Ben Salman reconnaît que c'est de la responsabilité de son entourage.
Mais est-ce que vous pouvez établir, par exemple, qu'Alexandre Adler a été rémunéré pour cet article-là?
Je ne peux pas le prouver. Je dis soit il est incompétent et dans ce cas-là, il ne devrait pas apparaître sur ce genre de sujet, soit il est rémunéré.
Oui, mais attention, raccourci, parce que dire que les ambassades saoudiennes ont de l'argent pour rémunérer des gens qui écrivent des articles positifs, c'est une chose.
Oui, mais vous avez...
Mais dire telle personne, parce qu'il a écrit positivement sur l'Arabie saoudite, fait partie de ceux qui ont touché de l'argent pour le faire, c'est diffamatoire.
C'est diffamatoire, je suis d'accord. Maintenant, si vous voulez, il faut que la charge de la preuve soit pas renversée. Il faut qu'Alexandre Adler nous explique pourquoi il s'est lancé dans ce dédit.
Là, vous faites un raccourci quand même.
Vous avez plusieurs manières de rémunérer quelqu'un. Vous avez plusieurs manières. Si vous lui dites, on va vous inviter, vous allez rencontrer le prince, vous allez être invité au Davos du désert, etc., etc. Les rémunérations ne sont pas toujours des données sonnantes et trébuchantes. Par contre, effectivement, vous devriez inviter l'ambassadeur d'Arabie Saoudite et lui poser la question.
Alors ça, c'est autre chose, c'est du soft power. Mais c'est encore, c'est justement là, je trouve que vous faites quand même un amalgame, même si sur le fond, il y a des infos intéressantes. Bon, vous expliquez qu'il y a 5 agences, parmi les plus grandes agences de communication du monde, qui sont missionnées par l'Arabie Saoudite. Et vous citez Interpublic, Omnicom, WPP, Publicis et Havas. Et dans votre livre, Publicis a une grosse place.
Alors, si vous voulez, il faut reprendre 2 épisodes antérieurs pour bien comprendre le processus. D'abord, l'Arabie Saoudite ne faisait pas de com. C'est le Qatar qui a déstabilisé le paysage. Le Qatar, le nouveau riche, qui a commencé très vite à utiliser son argent pour une soft power dont on constate les effets en France. Vous savez, l'achat du PSG, la création de chaîne Al Jazeera, etc. Et donc, l'Arabie Saoudite a été très profondément déstabilisée par le fait que le vilain petit Qatar, si vous voulez, a occupé une place médiatique sans commune mesure. Donc, l'Arabie Saoudite s'est dit, on ne sait pas faire. Et donc, il vaut mieux s'adresser à des boîtes de relations publiques qui, elles, savent faire. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Le 11 septembre, vous avez là un dossier en or. Vous avez donc une agence américaine qui s'appelle Corvis, qui est allée voir l'ambassadeur des Arabie Saoudite le lendemain de l'attentat, en disant « vos affaires, ça va mal. Si vous avez vraiment besoin d'une boîte de com, on peut vous aider ». Et Corvis, qui est une boîte qui a la réputation de s'occuper surtout des dossiers pourris, s'est donc occupé essentiellement de travailler sur le Congrès qui était en train de faire ce rapport sur les attentats du 11 septembre. Et dans un certain sens, il faut bien reconnaître qu'ils ont été assez efficaces, puisque George Bush a classifié 28 pages secret défense dans ce rapport du Congrès, qui était essentiellement consacré au rôle de l'ambassade d'Arabie Saoudite lors de l'organisation des attentats. Donc vous vous dites qu'il y a quelque chose. Bon, après vous apprenez qu'en 2012, Corvis a été racheté par Publicis. Et Corvis fait toujours partie de Publicis. Donc vous avez un système dans lequel les grosses agences n'apparaissent pas directement, qui fait que pour certains dossiers, ça va être fixé à Corvis, pour d'autres à d'autres filiales, etc., de façon à ce que, comment dire, l'opprobre général ne remonte pas jusqu'au sommet.
Bien, merci Pierre Conessa. Alors pour ceux qui voudraient aller plus loin, je renvoie à votre livre qui s'appelle donc « Le lobby saoudien en France » et je précise qu'il est édité chez De Noël. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert. Jean-Baptiste Dibert a choisi la musique. Et à la technique, il y avait Clément Berman et Maxime Ingrand. Je vous souhaite un excellent week-end. Et samedi prochain, c'est Benoît Colomba que vous retrouverez à cette même place.